Voilà, Étienne, dans l'épisode précédent de Nantes, Cité des Ducs de Bretagne, on a insisté sur cette duchesse, Ermengarde, qui a un rôle assez important hein, dans l'histoire de la Bretagne. Et donc, elle va poursuivre et permettre aussi à son fils de prendre la suite.
Oui, son fils, c'est Conan III. Conan III va régner longtemps, il va régner pendant 30 ans sur la Bretagne.
Ce qui est important, quand même, un règne de 30 ans. Ça.
Oui, c'est vraiment important. Pendant une bonne partie de ces 30 années, Ermengarde va accompagner son fils, sauf évidemment pendant qu'elle est à Jérusalem. Et elle lui fait part de son expérience, mais en même temps, il est un peu sous tutelle. Et puis, c'est un duc qui manque peut-être un petit peu de personnalité.
D'envergure.
Ouais. Ouais, un petit peu d'envergure. Et puis, il a également un beau-père qui est un personnage extrêmement important, puisque lorsqu'il se marie avec Mathilde. Et Mathilde est une fille illégitime du roi d'Angleterre, Henri Ier Beauclerc, qui est un roi relativement important, puisque le roi d'Angleterre, il pèse quand même. Il pèse beaucoup. Et donc, pour contrebalancer un peu l'influence de son beau-père, il se rapproche du roi Louis VI, Louis le Gros. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on ignore souvent, mais il y avait toute une politique matrimoniale à tous les niveaux. Par exemple, Louis VI est un descendant de Yaroslav le Grand, qui est un des fondateurs de la Russie, puisque Anne de Kiev a été la femme du roi de France au siècle précédent. Et tous ces gens donc jouent sur des politiques de relations, d'affrontements, et on commence déjà à entrevoir un petit peu la place de la Bretagne, qui est une place un peu difficile entre la France et l'Angleterre, même si les royaumes ne sont pas encore constitués.
On peut penser que la Bretagne risque d'être un champ de bataille, peut-être justement entre ces deux souverains, que ce soit le roi d'Angleterre et le roi de France.
Ça risque fort d'ailleurs. Le roi d'Angleterre ne va pas tarder à intervenir dans les histoires de la Bretagne. Conan III, pour l'instant, disons qu'il tire à peu près son épingle du jeu, mais c'est quelqu'un qui va finalement laisser une situation extrêmement compliquée, puisqu'il a deux enfants, il a un fils et une fille qu'il a donc eu avec Mathilde, et puis finalement, vers la fin de son règne, il estime que Mathilde l'a trompé, et que finalement son fils n'est pas son fils, et donc il lui retire le droit de lui succéder, et il donne finalement la succession à sa fille Berthe. Sa fille Berthe est mariée avec Alain Lenoir, et donc il voudrait que ce soit le fils de ce couple-là qui lui succède, et ça crée effectivement une situation extrêmement, extrêmement compliquée.
Oui, est-ce qu'on peut justement revenir et penser, on parlait des Plantagenêts tout à l'heure, qui gardent un regard sur cette affaire de Bretagne, on peut le dire, et quels sont les protagonistes de cette époque-là?
Oui, les Plantagenêts ne sont pas encore tout à fait au pouvoir. On va véritablement considérer que c'est en 1154 que Henri II, le grand roi Plantagenêt, qui vraiment donne l'assise à cette famille, va être au pouvoir. Et c'est en 1148, c'est-à-dire 6 ans auparavant, que décède Conan. Ce qui est certain, c'est que rapidement, effectivement, il est très ambitieux, Henri, et lorsqu'il voit cette situation qui est très très confuse en Bretagne, il va essayer de saisir l'occasion, parce que Berthe, qui est donc mariée, elle essaye de garder le pouvoir pour son fils, et puis ça crée donc une situation compliquée, puisque Berthe perd son mari, et elle se marie avec un autre seigneur breton, Eudon de Perrouet. Donc en réalité, celui qui est sur le trône n'est pas le fils du duc, et celui qui est censé être le duc est trop jeune pour régner, donc il y a une espèce de régence qui est imposée par la situation, et donc Berthe et son mari sont au pouvoir, et ils voudront essayer de garder le pouvoir, et leur fils devra combattre finalement ses propres parents pour récupérer ce qui devrait être son apanage.
Alors On insistait tout à l'heure, on parlait encore des Plantagenêts qui vont être à l'honneur hein, à cet épisode, le précédent. C'est que Conan va alors partir en Angleterre chercher du soutien
d'Henri Plantagenêt. Oui. Le jeune Conan IV a déjà une chance inouïe, c'est que son oncle, qui est le fils du duc, on lui a retiré le droit de succéder à son père. On a considéré que sa mère était infidèle, donc il aurait pu être vraiment de mauvaise foi. Il a eu le lot de consolation, il s'est retrouvé à la tête du comté de Nantes et il aurait pu contester son neveu. Or, en fait, il semble plutôt qu'il ait été assez fair-play et qu'il l'a aidé. Hein, mais ça n'a pas été suffisant parce que le jeune Conan IV affronte désormais son beau-père, Eudon de Porouette, et puis il est vaincu. Il n'a pas les capacités pour prendre finalement son trône.
Il y a un conflit armé entre eux ?
Ah oui, il y a un conflit armé, il y a carrément la guerre, et comme il la perd, il part en Angleterre se mettre sous la protection de Henri II, et là, effectivement, Henri II, lui, il saisit tout à fait l'occasion. Alors, Henri II, c'est un personnage assez exceptionnel, et donc il saisit l'occasion, il prend Conan II un peu sous sa protection, et il l'aide à conquérir son trône, mais en même temps, il lui pose des conditions.
En tant qu'historien, est-ce que tu penses que c'est une époque, c'est un moment important, ça, de l'histoire de Bretagne ?
Oui, je pense que c'est un moment très très important de l'histoire de Bretagne, parce que c'est un moment qui va faire tomber la Bretagne dans l'escarcelle du roi d'Angleterre. Et là, on va se trouver avec des personnages ensuite très importants dans le demi-siècle qui va suivre, avec des gens comme Philippe Auguste, Richard Cœur de Lion, etc. Et c'est vrai que la Bretagne ne peut pas protéger ses frontières contre finalement toutes les velléités qui sont autour d'elle, quoi.
Ouais. Il va aussi se marier en Angleterre.
Hein, il va se marier avec Marguerite d'Écosse, exactement. Hein. Marguerite d'Écosse, c'est une princesse qui a un certain prestige. Hein. C'est la fille de Henri de Northumberland, qui était le fils du roi d'Écosse, David Ier, un descendant du célèbre Malcolm. Et tous ces personnages-là, il y a des assassinats chez eux aussi, vont donner finalement à Shakespeare hein, finalement la matière de sa pièce Macbeth. Hein. Or, cette duchesse de Bretagne, Marguerite d'Écosse, dès que son mari va mourir, elle va retourner en Écosse, elle ne jouera plus aucun rôle ici, mais même le duc lui-même ne joue plus aucun rôle, parce qu'en réalité, à partir de 1066, il va régner à peu près pendant 10 ans, avec l'appui d'Henri II d'Angleterre, mais il est obligé déjà de faire d'énormes concessions.
Oui, j'allais demander, quelle est leur relation entre...
Leur relation est relativement simple. Henri II lui a dit, tu retournes en Bretagne, je te mets à ta place, mais ta fille Constance, qui a 4 ans, va être fiancée avec mon fils Geoffroy, qui a 8 ans, et mon fils sera le prochain duc de Bretagne. Voilà la condition. Et donc, finalement, le duc de Bretagne n'a pas d'autre solution, et il quitte même le pouvoir plusieurs années avant de mourir. Il a un lot de consolation. On lui donne un comté et il doit accepter finalement de ne plus régner sur la Bretagne. Donc en fait, personne ne règne à ce moment-là sur la Bretagne, si ce n'est le petit Geoffroy, qui a 8 ans et qui est promis lorsqu'il sera marié avec Constance. Mais on n'en est pas encore là.
On revient dans notre ville, Nantes. Alors comment vit-on à l'époque ? Est-ce qu'on est loin de ces considérations politiques-là ? Parce que la vie continue, hein, il y a une population, il y a du commerce, il y a la vie.
On n'est pas tellement loin de ces considérations, tout simplement parce que les combats sont venus également jusque dans le comté de Nantes. Donc il y a vraiment bataille pour un trône. Et c'est vrai que le Plantagenêt est puissant. Et puis il ne faut pas oublier que ce sont des Angevins. Hein, ce sont des Angevins, donc pour eux, c'est extrêmement important de prendre Nantes, de prendre toute la Bretagne. Et puis pour les populations locales, toutes ces batailles, tous ces combats, ces guerres qu'il y a d'abord entre Bretons, lorsque Conan essaye de reprendre son trône, puis l'intervention des troupes anglaises, tout ça, ça fait effectivement des conditions de vie difficiles, et ça montre aussi bien la précarité des habitants des villes. Ils retrouveront une certaine sérénité, mais ce sera un peu plus tard.
Oui, on peut dire que donc l'héritage un peu de ce qui avait été emmagasiné par Ermengarde tente à...
Ah oui, à ce moment-là, c'est vraiment en grosse difficulté, et ça joue sur tout, hein, ça joue sur le commerce, ça joue sur l'ensemble, ça joue sur la sécurité des gens, et puis surtout, on voit donc se mettre en place maintenant de nouveaux seigneurs qui vont venir et qui vont encore une nouvelle fois modifier la donne.
Oui, très bien. L'Église joue toujours sa même importance
ici.
L'Église
joue toujours le même rôle, mais en même temps, on sent bien que plus les princes prennent de pouvoir, plus ils ont la force militaire, plus ils négligent quand même un petit peu les interdits qui sont prononcés par les seigneurs de l'Église.
Donc on va voir dans le prochain épisode, ce sera les
Plantagenêts
qui vont...
Et la duchesse Constance, hein, parce que la duchesse Constance, qui est donc une descendante d'Ermengarde, c'est quand même quelqu'un de bien.
Voilà, on va avoir encore une nouvelle duchesse.
Encore une nouvelle duchesse, bah le sang des duchesses, finalement, donne le pouvoir, ce qui fait également l'originalité un peu par rapport au Royaume de France à côté, où la loi Salique, voilà, qui sera appliquée plus tard, veut que ce soit des hommes qui succèdent aux hommes.
On y reviendra dans le prochain épisode.